T'es pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous revenez sur l'actualité qui touche la philosophe Sylvia Nagasinski.
Jeudi 24 octobre, il y a une semaine, devait se tenir à l'université Bordeaux-Montaigne une conférence de Sylvia Nagasinski sur le thème « L'être humain à l'ère de sa reproductibilité technique » qui, on peut l'imaginer, devait reprendre les réflexions de son dernier opus « L'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué » dans lequel elle expose en partie son opposition à la PMA et à la GPA. Face au communiqué d'associations étudiantes anti-patriarcat LGBT+, trans et non-binaire, communiqué d'ailleurs publié sur Twitter début octobre, qui finissait sur cette phrase « Nous mettrons tout en œuvre afin que cette conférence n'ait pas lieu », les organisateurs ont préféré annuler la conférence pour des raisons de sécurité, d'où ce tollé.
Ce qui est en cause, c'est la liberté de penser et la liberté d'expression dans notre pays, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On est pour ou on est contre. Il n'y a pas de place pour le « en même temps » dans ce domaine. La France attend que le gouvernement condamne sans réserve l'atteinte portée à nos libertés et surtout prenne des mesures concrètes pour lutter contre la censure et la police de la pensée.
Alors ça, c'est pour la réaction du député LR Charles de la Verpillière, mais on pourrait aussi citer les réactions scandalisées à gauche comme au centre, Mélenchon ou Jean-Michel Blanquer, qui a parlé hier d'un nouveau maccartisme, sans oublier les multiples tribunes où il a été question du fascisme universitaire, de liberté d'expression menacée ou de censure. Je ne vais donc pas vous parler aujourd'hui de mon inquiétude face à la montée d'un climat d'intimidation ou de censure. Un tel consensus me rassure plutôt sur l'attachement de la plupart à la liberté d'expression. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est cette manie à tout de suite la convoquer, la liberté d'expression, de toutes parts, mais uniquement comme un principe. Que ce soit du côté de figures déjà présentes dans le champ médiatique et éditorial, mais qui se présentent pourtant comme les victimes bâillonnées de la bien-pensance des minorités, ou que ce soit du côté des individus ou communautés invisibilisées et silencieuses qui s'expriment pourtant en bourreauisant, je ne sais pas si ce terme existe, en tyrannisant en tout cas et en cherchant à leur tour à faire taire les premiers. Pourquoi y a-t-il donc un tel renversement entre victimes et bourreaux qui brandissent tous deux pourtant le principe de la liberté d'expression? Et pourquoi en est-on là à discuter de la liberté d'expression au lieu de s'en servir pour dire autre chose que « j'ai le droit » ou « tu n'as pas le droit de t'exprimer »
Yes, NUS has a no platform policy. And we've had it since April 1974, and we've still got it now.
Because it was voted for overwhelmingly by our membership.
At NUS, no platform means that organisations with racist or fascist views
will never be allowed to stand in NUS elections or attend or speak at any of our NUS events.
Le no-platforming, je ne connaissais pas, c'est le fait d'empêcher une personne dont on juge le discours dangereux de s'exprimer publiquement. Et c'est une pratique courante dans les universités anglo-saxonnes, en témoigne cette vidéo de l'Union nationale des étudiants britanniques. Une pratique surréaliste pour la plupart des Français au vu de cette polémique avec Sylvia Nagasinski. Pourtant, je dois dire que j'ai été plusieurs fois confrontée à une parfaite intériorisation de cette méthode ici en France, sans qu'elle ne dise son nom. Combien de fois ai-je pu lire ? Et vous aussi peut-être, au travail ou à la fac, des communiqués appelant au boycott d'un événement. Combien de fois ai-je pu entendre des personnes dire que tel ou tel n'avait pas à prendre la parole car dans le désordre, homme, blanc, surreprésenté et tant qu'on y est fasciste. Et combien de fois, ça va peut-être vous étonner, m'a-t-on demandé comment je pouvais travailler sur la même chaîne qu'Alain Finkielkraut. Et inversement, combien de fois ai-je pu voir aussi ce genre de tollé s'inquiétant de la censure, tollé de la part de ceux qui en ont les moyens d'ailleurs, des personnalités politiques ou des éditorialistes qui en appellent à la liberté d'expression sans se préoccuper néanmoins de tous ceux qui n'ont pas la publicité d'une Nagasinski ou d'un Finkielkraut et que l'on n'écoute pas.
Alors quel est selon vous le problème, Géraldine ?
Eh bien ce qui me paraît drôle, enfin en tout cas peut-être inquiétant, qui m'interpelle, c'est qu'on est si prompte à défendre la liberté d'expression pour elle seule qu'on ne l'exerce pas pour s'exprimer sur autre chose qu'elle-même ou pour condamner qu'on ne s'en serve pas ou trop. Pour dire des choses, on ne s'en sert pas pour dire des choses quelles qu'elles soient et si possible à quelqu'un, quel qu'il soit, qui pourra à son tour s'exprimer de quelque manière qu'il soit. On est si prompte en fait à défendre la liberté d'expression pour elle seule qu'on la rend vaine. Mais comment l'amour des principes peut-il ainsi les vider de leur sens, les réduire à des slogans, des énoncés tautologiques qui s'autodétruisent. Au fond, je me demande de quoi avait peur l'université Bordeaux-Montaigne en annulant la venue de Sylvia Nagasinski. Eh bien, peut-être de voir du dialogue, du conflit, des excès même entre des personnes en chair et en os, peut-être de voir la liberté d'expression prendre vraiment forme.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.